Bonjour, nous sommes aujourd'hui jeudi, le 24 mai. Quand j'étais petit, à l'école primaire, le 24 mai, ça voulait dire un mois avant les vacances.
Yay!
C'était comme le sprint avant les vacances. Alors, on va vous raconter plein, on va vous parler de plein de sujets qui touchent justement la petite enfance et l'activité physique. Je pense que ça va ensemble.
Bonjour Yvan Deslauriers.
Bonjour Marie-Alande.
Animateur des Voix de Service Magazine ce matin.
Oui. On se complète, c'est
ben
ça l'idée.
Oui, on se complète. Hein?
Oh.
Alors.
Et Mathieu Tessier qui rit de nous.
Bonjour, non, je ne ris pas avec vous. Vous me faites rire.
Après deux semaines de bambochage quelque part. Vas-y, Marie.
Alors, moi, je vous parle ce matin du phénomène de l'école à la carte au Québec. Il y a un article dans Le Devoir qui a parlé de ça cette semaine. Je vais vous le lire.
OK.
Ensuite, je vous parle de différence et de persévérance. Donc, deux projets pédagogiques qui célèbrent à la fois les différences et la persévérance.
Un pourrait aller avec l'autre, d'ailleurs.
Tout à fait.
OK.
Et finalement, je vous parle d'un cours universitaire sur le bonheur. C'est très sérieux.
Et puis, est-ce qu'il y a un diplôme?
Je ne sais pas, mais il y a des notes au bout, certainement.
J'aimerais connaître les exercices pratiques.
J'aimerais le suivre.
Au moins un sourire sur le bulletin.
Oui, quelque chose, un bonhomme sourire. De mon côté, ça va être un peu une macédoine de sujets, un peu éparses. Un spécialement pour Mathieu, mais pas aujourd'hui parce que je vois ton casque de scooter. Mais normalement, tu viens à vélo.
Moi,
alors...
Je peux le mettre en vélo aussi, mon casque.
Ah, tu peux le mettre à vélo, d'accord. Alors, je vais parler de sécurité routière.
Oui,
parce qu'il y a eu des changements tout dernièrement. Après ça, Marc Cassivi nous raconte un peu que se remettre à faire de l'exercice physique, c'est pas toujours facile. Il y a peut-être des anecdotes autour de ça. Ensuite, c'est Mylène Paquette qui nous raconte l'effet des technologies de communication sur les aventures. Et finalement, je termine avec l'expérience d'un monsieur qui commençait sa retraite et il y a eu une drôle de nouvelle pour commencer sa retraite, alors il a fallu qu'il fasse des ajustements.
D'accord.
Alors, c'est le programme pour aujourd'hui, Mathieu, tu nous lances ça. À la carte.
Bienvenue à l'école à la carte. C'est un texte de Marco Fortier qui a été publié dans Le Devoir le 22 mai cette semaine. Je sais qu'Hélène Denis en a lu une partie en onde parce qu'elle me l'a dit, mais on trouvait ça important toutes les deux que je puisse le lire au complet.
Okay.
Je vous fais ça aujourd'hui.
Okay.
Claudine Guilbeault et son mari avaient en tête une école idéale pour leurs trois garçons. Ils ne la trouvaient pas. Ils ont même envisagé de déménager dans un autre pays. Après une bonne réflexion, ils ont décidé de concrétiser une idée folle, fonder leur propre école. En 2011, Mme Guilbeault a abandonné son poste de chercheuse en microbiologie à l'Hôpital général de Montréal pour devenir directrice d'une école primaire, son école. Le couple a fait construire une école et en est devenu propriétaire. Ça prend un brin de naïveté et un brin de folie pour lancer un projet comme celui-là, dit Mme Guilbeault, en nous faisant visiter l'école Vision de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand elle a ouvert son école il y a 7 ans, elle était loin de se douter que le projet prendrait une telle ampleur.
Peut-être.
Oui, voilà. Après tout, les parents qui envoient leurs enfants à l'école Vision doivent payer plus de 8 000 $ par année. Cette école privée n'est pas subventionnée. La première année, l'école accueillait 29 élèves. Le bâtiment neuf situé dans un nouveau quartier accueille désormais 215 enfants du préscolaire et du primaire. Un agrandissement est prévu pour l'an prochain. L'école Vision fait partie d'un réseau de 23 établissements privés où l'enseignement se fait en 3 langues, l'anglais, le français et l'espagnol. Il ne s'agit pas d'une école passerelle qui permet de contourner la loi 101 et d'acheter l'accès à l'enseignement en anglais pour les francophones, précise Claudine Guilbeault. Il s'agit d'une école de langue reconnue par les ministères de l'Éducation et de la Famille. L'école Vision enseigne à la fois l'anglais et le français en tant que langue maternelle, en plus de l'espagnol comme 3e langue. C'est sa particularité. Des écoles comme celle-là qui répondent à une vision bien précise de l'éducation se multiplient au Québec. la Fédération des établissements d'enseignement privé, la FEEP, qui regroupe 193 écoles, dit recevoir un nombre croissant de demandes de parents qui cherchent une école, ouvrez les guillemets, sur mesure, fermez les guillemets, pour leur enfant. On voit de plus en plus de parents qui s'informent sur la façon de fonder leur propre école. C'est un phénomène nouveau, dit Geneviève Beauvais de la FEEP. Même l'école publique n'échappe pas à ce mouvement. Le promoteur du Technopôle Angus dans le quartier Rosemont, Christian Iaccarini, cherche à doter le quartier d'une école primaire publique fondée sur un modèle de gouvernance inédit. Mm-hmm. Cette école publique, gratuite et sans sélection des élèves, fonctionnerait, parce que c'est au conditionnel, avec un conseil d'administration autonome, hors du cadre habituel de la CSD, la Commission scolaire de Montréal, et de la loi sur l'instruction publique. Même dans le cadre de la loi, les écoles publiques offrent de plus en plus de projets particuliers. Sport-études, art-études, programme international. Le Conseil supérieur de l'éducation a sonné l'alarme en 2016. Le pourcentage d'élèves des écoles secondaires publiques inscrits dans des programmes particuliers qui sélectionnent souvent les élèves ayant les meilleures notes, faut-il le dire, était de 17,2% en 2012-2013. C'est aussi au Québec que la proportion d'élèves qui fréquentent l'école privée est la plus importante au pays, soit 21,5%. On connaît les conséquences de ce phénomène des écoles sur mesure. C'est une ségrégation qui défavorise l'école publique inclusive. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sylvain Bourdon, qui est professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Il s'intéresse, M. Bourdon, aux formes alternatives de scolarisation. Et il n'a jamais eu autant de matières à étudier. Sylvain Bourdon confirme que la bonne vieille école publique de quartier est de moins en moins populaire. C'est de plus en plus la logique du marché qui gère la scolarisation, dit-il. On arrive à un point de rupture avec cette école à la carte et à des vitesses variables. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, ne cache pas qu'il apprécie les projets particuliers sortant du moule de l'école mur à mur, note Sylvain Bourdon. Le ministre encourage l'innovation avec des projets comme le Lab École, qui est mené par le chef Ricardo Larrivée, l'athlète Pierre Lavoie et l'architecte Pierre Thibault. C'est un projet fort louable, estime M. Bourdon. Le problème, c'est que le Lab École risque de mener à des solutions à la pièce qui ne profiteront pas à l'ensemble du réseau public, ajoute-t-il. Claudine Guilbeault est bien consciente du phénomène, mais elle estime essentiel que le système fasse de la place aux solutions qui ne cadrent pas dans l'école publique traditionnelle. Contrairement à l'idée reçue, l'école Vision ouvre aussi ses portes aux enfants ayant des difficultés d'apprentissage ou de comportement. Près de 15 % des élèves ont un plan d'intervention pour cause de dyslexie, de dyspraxie ou de troubles d'attention avec ou sans hyperactivité. Et ça, c'était vraiment une nuance importante parce que beaucoup d'écoles qui sélectionnent leurs élèves ne prennent pas d'élèves à défi particulier. Les 30 membres du personnel, on parle des enseignants, de l'orthopédagogue, de la conseillère pédagogique, de l'intervenante sociale, du concierge, etc., ne sont pas syndiqués. Leurs conditions salariales sont de 5 à 10 % moindres que celles dans le réseau public. Mais en retour, ils ont une très grande autonomie professionnelle. On a fondé une école qui est cohérente avec notre système de valeurs, dit Mme Guilbeault. Les élèves passent chaque jour une heure de plus en classe, chaque jour, qu'à l'école publique. Ces 5 périodes supplémentaires de 60 minutes par semaine servent à bonifier l'enseignement de l'espagnol et de l'éducation physique. Notre but, c'est que les enfants aiment l'école, dit Claudine Guilbeault. On veut que l'enfant ait du plaisir à apprendre dans les matières qu'il aime pour être capable d'endurer les 20 % qu'il aime moins. Il doit apprendre à persévérer. Et moi, j'ajoute, avant de terminer, un commentaire personnel. Est-ce que ce n'est pas ce que toute l'école devrait offrir, que les enfants aiment l'école, justement?
Oui, bien sûr.
C'est ce qu'on vise.
Mais avec l'idée de à la carte, c'est justement de modéliser un programme qui correspond à, au goût de l'individu. Puis là, on s'éloigne du groupe à ce moment-là.
C'est un phénomène que je trouvais intéressant de noter. Merci Marco Fortier du Devoir.
Alors, de mon côté, je commence par un court article qui a été écrit par Antoine Stab dans le magazine Espace du 18 mai 2018. Ça s'appelle tout simplement « Sécurité routière, ce qui change pour les cyclistes ». Les nouvelles mesures du Code de la sécurité routière sont entrées en vigueur le 18 mai, donc il y a à peine une semaine, même pas. Parmi les nouvelles règles, certaines concernent les cyclistes. Pour être à jour sur les bonnes et mauvaises pratiques, voici ce qui a changé. Signalement des intentions. En cas d'arrêt ou de ralentissement, le cycliste faisait un signe vers le bas qui signifiait que je ralentis ou j'arrête. Il n'est plus obligé de signaler cette intention par un mouvement du bras, d'autant plus que c'était bas, c'est pas nécessairement très bien, très visible. Il doit toutefois continuer de signaler son intention de tourner, sauf si la manœuvre met en péril sa propre sécurité. C'est peut-être mieux qu'il tienne son guidon à deux mains des fois plutôt que de signaler qu'il va tourner à gauche.
Oui.
Partage de la route. Le cycliste a l'obligation de rouler aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée, en tenant compte de l'état de cette chaussée et des risques d'emportiérage. Il peut rouler entre deux rangées de véhicules quand il se trouve en présence d'une voie réservée au virage à droite. Donc, si la voie de droite est réservée pour le virage à droite pour les véhicules, lui, il peut se mettre à gauche de cette voie-là, donc il devient entre deux rangées de véhicules.
Donc, c'est la seule exception pour rouler à gauche, dans le fond.
Pour rouler un peu à gauche.
Un peu à gauche.
Oui. Il peut désormais utiliser le passage pour piétons à une intersection après s'être arrêté au feu rouge. Mais les piétons gardent la priorité. Cette règle s'appliquera en mai 2019. Il sera par ailleurs permis de circuler sur le trottoir à une vitesse raisonnable et prudente si une municipalité le permet en l'indiquant clairement sur un panneau de signalisation. Le piéton demeure toutefois prioritaire. Au niveau de la visibilité, les réflecteurs sur les pédales peuvent être remplacés par des bandes réfléchissantes sur les souliers ou autour des chevilles. Les réflecteurs sur les roues peuvent être remplacés par des bandes réfléchissantes sur les jantes, les haubans, c'est les barres en arrière qui mènent vers la roue, ou la fourche, c'est la même chose, mais en avant. L'obligation d'avoir des réflecteurs avant et arrière est maintenue, tout comme celle des lumières avant et arrière lors des déplacements nocturnes. Et j'ai déjà vu un barrage de policiers qui vérifiaient si on avait des lumières.
Ah oui?
Oui. Porter des écouteurs, même un seul, est désormais interdit.
Hey.
Ça veut dire que Yves Desautels, ce matin, il roulait sur un tandem, puis il parlait à... Je ne suis pas sûr qu'il avait raison.
Ah, peut'être que... Il n'y a pas une utilisation spéciale.
Aussi, là. Hein? Quand ils font des interventions à la radio, ils s'arrêtent.
Oui, ils s'arrêtent sûrement, oui, oui.
C'est déjà ça.
Oui.
Utiliser un appareil électronique, un téléphone, appareil photo, caméra d'action, la caméra qu'on met sur le casque, en roulant, sauf s'il est installé sur un support fixé au vélo ou un casque, c'est interdit.
Ou un casque.
Oui. Okay. Donc, la caméra fixée sur la casque, ça
c'est
va.
C'est permis.
Mais si tu tiens dans tes mains, ça ne marche pas.
Non, pas de téléphone, par exemple.
Et les sanctions? Les montants des amendes remises aux cyclistes augmentent drastiquement, passant de 15 à 30 $ à 80 à 100 $ selon l'infraction.
Oula.
En revanche, les points d'inaptitude ne sont plus retirés en cas d'offense. Pour des détails, on va voir sur le site transport.gouv.qc.ca.
Shoot, shoot, shoot.
On en écouterait pas mal longtemps de cette chanson-là. C'est le groupe The Brooks. Mais la chanson, c'est Priceless.
Puis on peut pas le faire à vélo.
Non,
parce
effectivement.
Parce qu'on n'a pas le droit des écouteurs.
Et le titre du EP, ou le nom du EP, c'est Free Willing Walking.
Mm. Oh!
So, j'ai pensé à,
oui.
à nous.
Mais là, je vais vous parler de course. Free Willing Walking. J'ai trouvé ça au centre d'exercice où je vais. C'est des petites revues, sont gratuites. Ça s'appelle Kilomag, K-M-A-G. Et c'est un article de Marc Cassivi qui dit « S'y remettre ». Pour lui, l'hiver a été rude, bien des dimanches matins à moins 20, et autant de prétextes à en sauter une, puis deux, puis 10, de manière pernicieuse ou aveuglément volontaire. On en vient à ne plus tenir le compte, et ne plus courir qu'une ou deux fois par semaine. En trouvant une soudaine sagesse à ceux qui disent, sans doute en vue de se donner bonne conscience, « Ce n'est pas un temps pour courir ». Le printemps a lui aussi son lot de défaites toutes faites. La pluie, la boue, la gadoue. Alors on tarde à s'y remettre et par conséquent à retrouver la forme des beaux jours. La côte qu'on gravissait sans peine l'été dernier semble subitement bien abrupte. L'escalier trop à pic. Le cœur, ce muscle peu volontaire, pompe plus qu'à son habitude. En quelques mois d'oisiveté et de manque de discipline, on a perdu le tonus musculaire, le souffle, l'endurance qui rendaient les 4 ou 5 sorties hebdomadaires de l'automne si agréables. On a vécu un creux. On n'exclut pas la personne qui parle. On est la personne qui parle. Après un entraînement de marathon, je suis convaincu, en novembre dernier, que je méritais une pause d'au moins 2 semaines. 2 semaines sont devenues 1 mois, puis 2 mois, puis 4. Je n'ai pas complètement arrêté de courir, mais j'ai couru plus que jamais en dilettante. Pas assez pour conserver, ne serait-ce qu'un minimum de forme physique. Le printemps arrive toujours avec son lot de promesses. On troque ses chaussures à crampons pour des souliers de course dignes de ce nom et on a le pas plus léger. J'ai, depuis quelques années, après moult essais et erreurs, déterminé le modèle de souliers de course qui me convient le mieux. Je ne cherche pas plus loin, je connais la paire qu'il me faut. Or, mon beau-frère, chasseur d'aubaine devant l'Éternel, moi aussi j'en ai un, m'a proposé l'été dernier de m'acheter au rabais des chaussures de prédilection à la faveur d'un « obtenez la deuxième paire à moitié prix » dont il est le spécialiste. Le hic, le modèle que j'affectionne, n'était disponible à ma taille que dans une seule couleur, l'orange. Pas l'orange brûlé qui rehausse discrètement une chaussure terne, non, l'orange julep, de type travailleur de la construction qui tient à se faire remarquer. À la vitesse à laquelle je cours, étant donné l'élégance inexistante de ma foulée, disons que je ne tiens pas à me faire remarquer. N'empêche, je n'ai jamais eu aussi hâte de rechausser des souliers aussi laids. Pompeuse pompe orange aux pieds, je me promets d'attaquer le bitume printanier avec un élan renouvelé, à défaut de pouvoir soutenir cet enthousiasme par un cardio idoine. Le meilleur remède au laisser-aller? Pas un miroir ni un pèse-personne, plutôt un complice, un allié, un frère d'infortune prêt à braver une dernière tempête de neige de mars ou une pluie glaciale d'avril dans le but de suivre un début de plan d'entraînement. J'ai eu le beau-frère par les sentiments, une inscription arabais pour le marathon d'automne. Alors c'était un petit article qui s'appelle « S'y remettre » de Marc Cassivi dans une revue gratuite qui s'appelle Kilomag. Alors Marie, un peu dans la suite de ce que tu nous as lu, on parle de différence.
On parle d'abord de différence, donc je vais vous lire 2 courts textes. Le premier parle de différence et ça s'appelle « Côtoyer les différences dès la maternelle
okay. ».
C'est un texte de Mélissa Viau qui a été publié le 19 mai sur le site du journal Le Quotidien. À l'école Notre-Dame de l'Assomption de Jonquière, dans la classe de maternelle d'Annick Morissette, il y a 2 enfants ayant des besoins particuliers. Un petit garçon est atteint du trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, et une fillette porte des appareils auditifs. Au début de l'année, la communication entre tous les enfants était parfois difficile. C'est pourquoi le Centre de réadaptation en déficience physique est venu rencontrer la classe à quelques reprises pour démystifier les différences de Médric et Daphné. Au début de l'année, on choisissait des amis pour jouer avec Médric et Daphné. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer avec eux. Les élèves ont le souci qu'ils soient bien, remarque l'enseignante. Ces deux inspirants élèves, entourés d'un solide cercle d'amis, ont permis la réalisation de projets originaux. Depuis quelques mois, les 18 enfants pratiquent une chanson en langue des signes. Le spectacle devant les parents est prévu le 8 juin. Ce projet cadre dans un des mandats des écoles qui souhaitent contrer l'intimidation et la violence en posant des gestes empreints de bonté et de gentillesse. Contrairement aux autres classes, où l'on retrouve habituellement une seule enseignante, Madame Annick est toujours entourée de deux autres collègues et parfois même trois. Véronique Tremblay est éducatrice spécialisée, elle agit comme interprète. Elle accompagne Daphné tous les jours en traduisant les mots de Madame Annick en langage des signes. Daphné a des implants cochléaires, mais les bruits environnants sont parfois très dérangeants pour elle. Parfois, au lieu de se concentrer sur les explications de l'enseignante, Daphné va davantage entendre les bruits environnants, comme les élèves qui bougent sur leur chaise. Quant à Médric, il est toujours accompagné d'Émilie Lamontagne, qui est préposée aux élèves avec un handicap. Une heure par jour, Médric reçoit aussi la visite de Stéphanie Claveau, qui est éducatrice spécialisée. Pour arriver à une telle harmonie, la routine est de rigueur. C'est aussi un gros travail d'équipe. À vous, l'enseignante, qui se trouve privilégiée d'être entourée de ces trois autres spécialistes. Dans sa classe, les différences font partie du quotidien et c'est un sujet que tous les élèves âgés de 5 et 6 ans, rappelons-le, connaissent bien. D'ailleurs, selon eux, tout le monde est différent.
Mm-hmm.
Et donc, un autre court texte, celui-ci sur la persévérance. Le cégep Marie-Victorin souligne l'effort et la persévérance des élèves de l'École des Grands. C'est un texte qui a été publié dans la section nouvelles du site du cégep Marie-Victorin. Qu'est-ce que c'est l'École des Grands? Tous les samedis matins de l'année scolaire, de 9h à midi, le cégep accueille dans ses locaux et laboratoires des élèves provenant d'écoles primaires en milieu défavorisé du quartier. Les élèves de ces écoles sont accompagnés dans leurs devoirs de français et de mathématiques par une trentaine de tuteurs et tutrices bénévoles du cégep, issus de tous les programmes d'études. Du temps est aussi consacré à l'éveil scientifique, où les élèves du primaire, sous la supervision des tuteurs et coordinatrices scientifiques, réalisent des expériences dans les laboratoires du cégep afin de développer leur curiosité intellectuelle, leur émerveillement et leur intérêt envers les sciences. Tous les tuteurs reçoivent une formation obligatoire et sont suivis de manière hebdomadaire. Au cégep Marie-Victorin, plus d'une centaine de personnes étaient réunies le 12 mai dernier pour célébrer la réussite et la persévérance des élèves de la cohorte de 18-19 des cégeps Marie-Victorin et Maisonneuve en procédant à une remise de certificats aux jeunes participants et participantes. Et c'est très intéressant parce que c'est un projet qui va faire des petits l'an prochain. Les cégeps de Lanaudière à Joliette et de Gaspésie et des Îles vont emboîter le pas. Une recherche a démontré les retombées positives de l'École des Grands, tant sur la réussite des élèves du primaire que sur la réussite des tuteurs.
Mm-hmm.
C'est un projet intéressant.
Oui, on s'aperçoit souvent que quand on a à enseigner quelque chose, même quand on est tout petit,
on apprend mieux.
On apprend mieux,
tout à fait.
C'est ça, il faut qu'on essaye de maîtriser un peu le concept.
Oui.
Est-ce que tu aurais quelques mots d'enfant?
Oh, ben j'en ai déjà un, celui de Enzo, 8 ans, selon qui un cabriolet, c'est une voiture sans couvercle.
Alors, moi, j'ai quelques minutes, je peux vous parler de quelque chose dont je vous ai parlé la semaine dernière, mais ça va avoir lieu samedi. C'est le Cyclomyélome Canada.
Oui.
Ça va avoir lieu samedi. C'est un circuit de 70 km ou de 40 km. Ça a lieu du côté de l'ouest.
Que tu le saches parce qu'il faut que tu ailles.
Je vais me le rappeler. Oui, c'est quelqu'un qui me conduit. Alors, si je n'ai pas trop... Et c'est pour encourager les gens à connaître ce qu'est le cancer du myélome multiple et les formes de rémission. On a passé d'une espérance de vie de 3 à 6 ans en quelques années. Et dans 15 secondes, on vous laisse pour quelques instants et on revient avec le thème central du bonheur. On va aller à l'université pour le bonheur et on va faire de l'exercice pour essayer de trouver le bonheur. Alors, à tantôt.
Espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à faune qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur.
C'est quand le bonheur que nous chantait Kelly.
On va essayer que ça soit dans le prochain 25
maintenant.
Minutes. Hein?
C'est ici et maintenant.
Et ça commence par une réflexion que nous propose Mylène Paquette, celle qui a ramé. et qui rame probablement toujours, que j'ai trouvé dans le magazine Espace de mai 2018, et ça s'appelle « L'aventure connectée ». Aurais-je eu envie de me lancer à travers l'océan sans être connecté à la terre ferme par tous les moyens de communication dont j'ai disposé durant mon voyage? À cette question qu'on m'adresse régulièrement, je réponds sans hésitation « non ». Afin de m'assurer de mener à bien mon expédition et de demeurer en sécurité, je désirais être entouré d'une équipe pouvant intervenir à distance et se creuser les méninges avec moi, advenant une situation délicate. Même si j'étais isolé sur l'océan, le travail d'équipe demeurait essentiel au bon déroulement de mon aventure. De plus, je n'avais pas envie de me sentir seul psychologiquement. J'étais prête à accepter une coupure de contact advenant une avarie, mais ce n'était pas là mon premier choix. Aujourd'hui, en mer, comme au quotidien, nous sommes plus connectés que jamais. Nous avons un compte Instagram, plusieurs abonnés sur Twitter, une multitude d'amis Facebook ou une application WhatsApp bien à jour. Même ceux qui boudent encore ces outils sont joignables par texto, par courriel ou à partir de leur cellulaire. On peut communiquer partout, de partout, en tout temps. Se déconnecter des autres est même devenu quasi inimaginable. Et si on veut s'éloigner des sentiers battus, l'idée de se débrancher frise même l'inconscience. Pour plusieurs, partir de chez soi 24 heures sans téléphone représente un risque de haut niveau. Je m'attendais à un sourire à cet endroit-là.
Est-ce qu'il est toujours dans ma poche? Réflexe.
Oui, c'est ça. Même si cette hyper-connectivité apporte son lot de services et de commodités, il semble qu'il soit de plus en plus difficile d'être déconnecté et de se retrouver seul au milieu de nulle part. Dans le monde du plein air, le fait de garder le contact augmente les chances de succès et assure le bon déroulement des expéditions. Mais l'omniprésence des communications implique aussi une certaine ambiguïté, car en étouffant les imprévus, la connexion affecte l'expérience de la solitude et de l'isolement. Or, cet isolement est bien souvent ce qui nous attire vers les endroits les plus reculés de la planète. L'image romantique d'une personne seule au beau milieu de l'océan prend une nouvelle dimension lorsqu'on sait qu'une connexion Internet est accessible depuis son embarcation. Les outils de communication et la technologie sont devenus des éléments non négligeables pour la réalisation d'expéditions d'envergure, et rester connecté permet d'aller plus loin. Même si ce n'est pas là ce qui permet de créer l'aventure, la connexion la favorise et la rend beaucoup plus soutenable. Comme la technologie, elle optimise la faisabilité des expéditions. Pour ma part, l'expérience d'une traversée à la rame me serait apparue totalement répugnante si j'avais envisagé de la faire avec les mêmes moyens technologiques que ceux de mes prédécesseurs ont utilisés quelques décennies auparavant. À l'ère actuelle, alors que la portée et l'étendue des communications ne font que s'amplifier, le voyage change de visage. Il ne forme plus un amalgame d'aléas proposés par la nature, mais plutôt un mode de vie administré et rendu possible grâce à la technologie et aux moyens dont on dispose pour communiquer. Il est maintenant rare de partir en voyage sans l'exposer sur nos réseaux, autant pour informer nos proches que pour raconter notre expérience. Il est désormais courant d'utiliser nos plateformes pour communiquer. Certains adeptes des réseaux sociaux sont si engagés sur leur compte qu'il leur semble impossible de créer une rupture avec le virtuel le temps d'une excursion. D'autres diront que partir connecté, ce n'est que partir à moitié. Pour ma part, je crois que Wi-Fi, pas Wi-Fi, partage de connexion ou pas, le vrai voyage commence quand on se déconnecte psychologiquement du quotidien et aussitôt qu'on s'adapte à son nouvel environnement. Tant que le besoin de se sentir libre dépasse le besoin de se sentir connecté, on reste présent dans l'expérience de l'aventure et non pas accroché à des relations distantes. Ceux qui s'imaginent que la distance ne suffit plus pour s'isoler sont dans l'erreur. L'isolement, le vrai, naît du manque d'interaction humaine, d'empathie et de réciprocité bien avant d'être causé par la distance. Je crois que la connexion réelle passe par le cœur, que ce soit par une image, un mot, un son. Et ce sont les émotions ressenties qui nous prouvent qu'on est connecté à soi et aux autres. Je crois aussi qu'il n'y a pas d'isolement plus cruel que celui que l'on peut ressentir lorsqu'on est entouré de milliers de gens autour de soi. Et malheureusement, vu l'omniprésence des communications d'aujourd'hui, l'ère moderne met en perspective cet isolement dans nos vies. Alors, c'était une réflexion assez intéressante de Mylène Paquette dans le magazine Espace de mai 2018 et ça s'appelle « L'aventure connectée ».
Alors, pour rester dans la même veine, je vous lis un texte dont le titre est « Laisse-moi t'enseigner le bonheur ». C'est un texte que Sylvia Galipo a écrit et publié dans la presse plus le 19 mai. Savez-vous quel est le cours le plus populaire de l'université Yale ces jours-ci? Oubliez la médecine, les affaires ou le droit. C'est la science du bonheur qui attire désormais les foules. Depuis le mois de janvier, près du quart des étudiants du premier cycle, soit 1200 étudiants, se sont inscrits au cours de psychologie du bien-être de Laurie Santos, du jamais vu dans cette prestigieuse université tricentenaire. Pour répondre à la demande et surtout asseoir tous les étudiants, il a fallu offrir le cours en simultané dans différentes salles grâce à une projection vidéo avant de finalement réunir tout ce beau monde dans un immense auditorium, le Woolsey Hall, habituellement réservé aux performances musicales, révèle le New York Times. Bonne nouvelle, depuis peu, la formation est également proposée en ligne, gratuitement, tous les lundis. Comme les étudiants inscrits au cours Psycho 157, il est donc possible de suivre cette formation de 10 semaines qui couvre notre mauvaise compréhension du bonheur, fait le point sur ce qui rend véritablement heureux, présente des stratégies pour passer de la théorie à la pratique et enfin propose un défi pour transformer cette pratique en véritable habitude. En entrevue, la professeure avoue être dépassée par l'engouement suscité par son cours. « C'est surréel », dit-elle en riant au bout du fil.
L'engouement pour le bonheur.
Oui, c'est ça. Cela témoigne, selon elle, de deux choses. D'abord, les étudiants ont ici de toute évidence pris conscience que la vie sur le campus n'était pas aussi joyeuse que prévu. Les étudiants, dit-elle, n'ont aucun répit et étudient sans cesse. Pardon. Ils cherchent aussi à faire les choses différemment. À plus grande échelle, dit-elle, l'intérêt du grand public témoignerait d'une volonté plus généralisée de vivre une vie avec moins de stress et davantage de moments heureux. À la lecture du plan de cours, peut-être vous direz-vous que vous savez déjà tout cela. Exprimer de la gratitude, renforcer ses liens sociaux, l'argent ne fait pas le bonheur, encore moins la promotion ou le gros chèque de paye, pas plus qu'une nouvelle paire de chaussures ou un voyage dans le sud. Mais dans la pratique, il faut changer notre façon de voir les choses, avance la psychologue, ce qui est nettement plus complexe. Changer nos habitudes, c'est dur, concède-t-elle. Pour être heureux, ça prend de l'entraînement et du travail. Ce sont une série de petits changements qui, avec le temps, augmenteront votre bien-être. Et on nous donne dans l'article 5 trucs à mettre en pratique au plus vite. Le premier, du temps pour les proches. La psychologue du bonheur, Laurie Santos, le dit et le répète, augmentez le temps que vous passez avec votre famille, vos proches, même carrément des étrangers. Parce que c'est prouvé, plus on passe de temps avec du vrai monde, et non sur les réseaux sociaux, à tisser des liens, des vrais, plus on est heureux. Deuxième truc, dites merci. Les études démontrent que les gens qui expriment de la gratitude sont plus heureux, poursuit la professeure, qui suggère à tous les étudiants, tous ses étudiants, de faire l'exercice quotidiennement. Prenez un crayon et notez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Recommencez demain et ainsi de suite. Troisième truc, soyez gentil. Gratuitement, aléatoirement, donnez au suivant. que ce soit à des proches ou à des inconnus. Parce qu'à nouveau, c'est prouvé, les gens les plus heureux ont aussi tendance à donner davantage aux organismes de charité. Donner aide à se sentir heureux, dit la psychologue. Quatrième truc, donner la priorité à votre santé. On sait tous qu'il faut manger santé, dormir et bouger. Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent bien des obstacles. Une fois pour toutes, passez à l'acte, insiste Mme Santos. Parce que, on le sait, les gens les plus heureux dorment suffisamment et bougent régulièrement. 30 minutes d'exercice par jour, c'est un véritable antidépresseur. Et finalement, soyez riche en temps. Cinquième secret des gens heureux, ils cherchent à accumuler du temps et non de l'argent. Oubliez les heures supplémentaires et les semaines de travail surchargées et gardez au contraire du temps libre. Pour faire quoi? Rien. Couchez-vous dans l'herbe, soyez dans le moment présent, nous met au défi la psychologue. Bon, là, dans l'herbe, on ne peut pas, mais on pourrait se coucher par terre, si. Ça serait déjà ça. Oui, alors c'est un texte de Sylvia Galipo, publié dans la presse le 19 mai dernier.
J'aime vraiment beaucoup l'idée de Mathieu, par exemple, d'offrir des diplômes avec un bonhomme sourire dessus.
Oui.
Pour le cours sur le bonheur.
Pour la réussite du cours.
C'est oui. Ça. Dans le même état d'esprit, je pense que c'est le troisième ou le quatrième
truc,
c'était de voir à sa santé.
Oui.
Et je vous parle de quelqu'un qui y voit présentement pour des raisons importantes. C'est dans la chronique « Actif au quotidien » que je vous lis quelquefois. Dans la presse. Celui-ci s'intitule « L'activité physique pour retarder la maladie ». Et je vous remets un peu dans le contexte. Comment fait cette personne? Souvent, voilà la première question qui surgit lorsqu'une personne arrive à concilier toutes ses obligations avec un entraînement assidu, au moins 30 minutes par jour.
Mm-hmm.
Parce que tous les sportifs ont leur secret, posent, rencontrent chaque semaine un mordu qui arrive à garder sa motivation malgré les aléas du quotidien. C'est sous la plume de Marie Tison, dans la presse, du 23 mai d'hier. Et je vous présente Benoît Goulet, 60 ans, retraité. Après avoir enseigné l'éducation physique pendant 35 ans, on aurait dit que c'est un naturel.
Il était prédestiné.
Hein? Oui, Benoît Goulet prévoyait une retraite bien active. Soudain, un diagnostic de maladie de Parkinson est venu brouiller les cartes. Mais pour Benoît Goulet, pas question de diminuer l'activité physique, bien au contraire. Avez-vous toujours été physiquement actif? J'ai commencé à faire de l'activité physique de façon régulière à l'âge de 16 ou 18 ans. Avant, c'était plus du jeu. Je suis un joueur de tennis et un skieur de fond. J'ai les deux saisons d'occupés. J'ai découvert la randonnée pédestre il y a une dizaine d'années. Je vais beaucoup dans les montagnes blanches. Je grimpe des montagnes. D'autres sports se sont ajoutés à mon éventail d'activités, comme le vélo. Pourquoi êtes-vous devenu un professeur d'éducation physique? J'étais un enseignant dans l'âme, je ne sais pas. J'aimais faire apprendre à d'autres, j'avais la patience. Après des stages, j'ai trouvé rapidement le milieu où je voulais enseigner, soit les jeunes enfants. À cet âge, ils sont plus ouverts et malléables au changement. J'avais d'abord enseigné à des adultes, des personnes âgées, des personnes handicapées, puis j'ai trouvé un poste au primaire. La pédagogie, c'est véritablement une vocation pour moi. Comment avez-vous appris que vous étiez atteint de la maladie de Parkinson? J'ai pris ma retraite le 21 décembre dernier. Depuis un an et demi, j'avais un tremblement de la main droite, mais je n'y accordais pas trop d'importance. On me disait que, des fois, c'est héréditaire, ces choses-là. Il y a 6 mois, c'est devenu débilitant. Essayer de manger des céréales avec une cuillère, c'était devenu toute une tâche. J'ai consulté mon médecin de famille, puis j'ai eu un rendez-vous avec le neurologue. Le 18 janvier dernier, il m'a appris que j'avais la maladie de Parkinson. La retraite ne commençait pas comme je pensais. Je prévoyais une retraite très active. Je projetais de voyager avec ma conjointe. Comment avez-vous réagi? Cette nouvelle-là m'a un peu sonné les premières semaines, mais rapidement, je me suis mis en mode proactif. Je me suis dit, ce n'est pas vrai que je vais sucer mon pouce dans un coin et pleurer. Je vais mettre les bouchées doubles. Qu'avez-vous décidé de faire? J'ai commencé à prendre des médicaments. Quand j'ai dit à mon neurologue que j'étais très actif, il m'a dit que c'était une excellente nouvelle. Mais il a ajouté qu'il y avait une perte de tonus musculaire chez les gens qui font du Parkinson. Mon kinésiologue au Centre local d'activité physique, le CLAP, m'a dit qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait me faire un programme qui pouvait m'aider à ralentir le processus de perte de tonus musculaire. 3 ou 4 fois par semaine, je vais au CLAP pour faire mon programme d'entraînement. C'est une série d'exercices qui font appel à des haltères de petite et moyenne taille. Je fais aussi des squats pour les jambes, des intervalles, et je termine par des exercices d'assouplissement. Parce que c'est un autre symptôme de la maladie. Ça donne beaucoup de rigidité. Mon bonbon, c'est de jouer au tennis et faire du ski de fond. Autour de ça, il faut que je greffe des activités complémentaires qui vont me permettre d'avoir du plaisir dans mes activités préférées. Est-ce que c'est parfois difficile de se motiver? Non, peut-être parce que je suis à la retraite, mais quand je me lève le matin, c'est déjà placé dans mon agenda de la journée. En fait, ça me donne une bonne motivation pour greffer autre chose avant ou après. La seule chose qui puisse arriver, c'est comme hier, j'ai joué presque 2 heures au tennis avec un partenaire. Aujourd'hui, je m'en ressentais et l'entraînement était un peu plus difficile. Ce n'est donc pas au niveau de la motivation mentale, mais au niveau physique. Avez-vous des objectifs à moyen et long terme? Selon ce que mon neurologue m'a dit, j'ai une période de 8 à 10 ans où il n'y a pas vraiment de symptômes qui apparaissent. On appelle ça la période dorée. J'ai 2 filles de jeunes adultes très actives. Mon but, c'est de les suivre le plus longtemps possible, de rester actifs le plus longtemps possible. Un reportage dans la presse sur le sentier des Appalaches m'a donné le goût de partir. Il y aurait aussi Compostelle ou le sentier de la côte Pacifique qui m'intéresse. Ce sont des choses que je pourrais faire avec mes filles. L'autre but, c'est de continuer à voyager. Rendu à 60 ou 70 ans, partir en Europe, ça prend une forme minimale. Alors, c'était l'article « L'activité physique pour retarder la maladie ». C'était dans la chronique « Actif au quotidien » où on parlait de M. Benoît Goulet, 60 ans, retraité. Juste un petit détail par rapport à ce que je vous ai raconté juste avant la pause. Le défi cyclomyélome, ça va avoir lieu dans la région de Venise, en Québec. L'objectif est de 75 000 $, puis je pense qu'aux dernières nouvelles, on était rendu à 68 ou 69. Alors, on est sur la bonne voie.
On s'encourage.
Oui. Marie.
Oui, alors donc dimanche 27 mai, si vous n'êtes pas en vélo pour le cyclo le défi cyclomyélome.
Oui, ou en train de préparer un concert de chorale.
Voilà, c'est ça. Donc, dimanche 27 mai, c'est ce dimanche-là qu'aura lieu la traditionnelle journée des musées montréalais. Au total, plus d'une trentaine d'institutions ouvriront leurs portes gratuitement au public. Il est d'ailleurs possible de télécharger une carte proposant différents parcours pour profiter à plein de cette escapade culturelle. Puis on peut voyager entre les différents musée sur le circuit.
Oui, en autobus.
Hein? En autobus, c'est ça. C'est vraiment intéressant. On en profite.
Oui, puis je pense que dimanche, c'est une journée mi-figue, mi-raisin. Il va faire beau, pas beau.
Au niveau de la température. Ouais. Question de température.
Oui, une température de musée.
Alors, on va au musée.
Oui, moi, je vous parle d'une activité physique philanthropique. Là, j'en ai quelques-unes. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Celle-ci va avoir lieu le 14 juin, donc dans à peu près 17 jours, 2 semaines, 17 jours à peu près. Ça s'appelle le duathlon urbain. C'est la fondation du CHU Sainte-Justine qui est derrière cet événement, présenté pour la 8e fois. Cette année, l'objectif est de ramasser au moins 350 000 $ pour le Centre d'excellence en soins intensifs du nouveau-né du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Il s'agit d'une course à relais ludique et festive, au cours de laquelle plus de 300 personnes courront et pédaleront dans les rues de Montréal à partir du Square Dorchester, ou Dorchester, comme ils disent à Radio-Canada. Les participants sont invités à revêtir leur tenue de sport la plus originale, ainsi que la cravate officielle du duathlon urbain. Chaque équipe doit compter 2 cyclistes à bixi et 1 coureur. Le prestigieux veston jaune sera remis à l'équipe la plus performante dans sa collecte de fonds. Alors, ça s'appelle le duathlon urbain. Ça a lieu le 14 juin. Marie.
Alors, cette semaine, l'Observatoire des tout-petits émettait un communiqué de presse que je vous lis actuellement. Une proposition non négligeable des tout-petits Québécois fréquentait un service de garde à la petite enfance de faible ou très faible qualité. C'est ce que souligne un nouveau dossier de l'Observatoire des tout-petits, publié cette semaine. Selon ce rapport, des enjeux de qualité existeraient dans tous les types de milieux, qu'il s'agisse de milieux familiaux, des garderies subventionnées ou non subventionnées, des CPE ou des maternelles 4 ans. Quand on considère qu'au Québec, un tout-petit qui fréquente un service de garde y passe 8 heures par jour en moyenne et qu'un tel milieu aura des impacts importants sur son développement et sa réussite éducative, il importe de se préoccuper de cet enjeu de société. Alors, c'est un dossier fort important qu'on peut trouver sur le site de l'Observatoire des tout-petits.
Donc, à 8 heures par jour, on les prépare déjà à entrer dans la... Oui. Dans le marché du travail.
Oui, tout à fait.
Une autre activité caritative, celle-là, c'est le 15 juin. Vous en avez sûrement entendu parler. Ça s'appelle le Relais pour la vie. Toute une communauté rassemblée autour d'un même objectif, vaincre le cancer. Voilà ce qui décrit le mieux le Relais pour la vie, une organisation pan-canadienne qui se décline en 415 événements réunissant plus de 110 000 participants. Plus de 25 millions ont été amassés jusqu'ici. Durant le relais, les membres d'une même équipe marchent tour à tour le long d'une piste, des fois c'est la nuit, avec des petits sacs, avec des petites chandelles, et ce, pendant de 6 à 12 heures selon l'endroit de l'événement. Entre 2 tours de piste, les participants peuvent profiter de l'animation du site et du campement de leur équipe. À Montréal, ça va avoir lieu le 15 juin et à Longueuil le lendemain. Marie, un mot d'enfant.
Selon Anne-Laure, 7 ans, zut, c'est le gros mot des grands-mères.
Oh, j'aime ça. Flûte, ça c'est moi. Alors, il nous reste 10 secondes pour vous souhaiter une belle journée du jeudi. On se revoit la semaine prochaine. On se revoit à 3 avec Monique Kerouac. On dit un gros merci.